voix nue. Toute cette semaine, Claire Maillot rencontre Maurice Hollander. Ce soir, apprivoisez les lettres.
Bonsoir Maurice Hollander.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir chez vous, à Paris. Nous allons passer toute cette semaine ensemble. Il faut donc faire les présentations. Vous êtes historien des religions, spécialiste du racisme, professeur à l'école des hautes études en sciences sociales. On vous doit des ouvrages marquants comme « Les langues du paradis » paru en 1989 et traduit depuis en une douzaine de langues, « Race sans histoire » publié en 2009 et plus récemment, on a découvert un texte plus intime intitulé « Un fantôme dans la bibliothèque ». Vous avez fait de l'altérité un motif constant de votre réflexion et un principe d'action, puisqu'en devenant éditeur, vous avez donné à lire les textes des autres, en créant d'abord la revue Le Genre Humain, c'était en 1981, et puis la célèbre collection Au Seuil, la librairie du XXe siècle, devenue, par souci d'exactitude, au tournant du siècle, la librairie du XXIe siècle. Alors pour donner la mesure du catalogue, je ne citerai que quelques-uns des auteurs publiés, Yves Bonnefoy, Paul Celan, Henri Atlan, Jean Starobinski, Jean-Pierre Vernant, Luc Dardenne, Georges Perec, Lydia Flemm, Antonio Tabucchi, Marcel De Tienne, Norbert Elias, Michel Perrault. On les verra réapparaître au fil de la semaine, c'est sûr. Mais c'est de vous dont il sera question, Maurice Hollander, cette semaine. Je vais vous demander de vous exposer, de parler à voix nue et de livrer une vérité biographique. Ce sera peut-être une épreuve pour vous qui aimez toujours insuffler de la fiction dans le réel. Et puis surtout, je vous ai proposé de revenir sur des lieux qui vous racontent, interrompant le perpétuel mouvement dans lequel s'inscrit votre existence, vous qui passez beaucoup de temps dans le train Paris-Bruxelles. Ce soir donc, premier arrêt, la ville d'Anvers, où vous naissez en 1946, au lendemain de la guerre, dans une famille juive venue de Pologne. Et quand vous arrivez dans cet univers, vous écrivez, on peut le lire, que c'est un dépôt de cendres. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette expression forte, saisissante, un dépôt de cendres, Maurice Hollander?
Sous cette expression, il y a quelque chose de très paradoxal, là, parce qu'en effet, l'enfant né dans cette famille juive polonaise, d'ailleurs j'ai dû naître, polonais, comme un certain nombre d'autres, avant d'être naturalisé au moment où mes parents étaient naturalisés belges et d'être français aujourd'hui. Donc, j'ai varié de nationalité plusieurs fois. Mais un dépôt de cendres, pourquoi je disais paradoxal? Parce que, en effet, autour de moi, disons que j'avais 3, 4 ans, 5 ans, je me souviens, ben, les gens, oui, parlaient de la guerre. Les deux frères de ma mère avaient été lourdement déporté, je peux dire, Auschwitz et Buchenwald étaient revenus et avaient recommencé leur vie. Et au fond, c'était un univers, alors je parle de l'univers restreint de la famille avec les oncles, les tantes, les cousins, où on parlait sans cesse de l'horreur et il y avait une joie de vivre et une puissance d'énergie énorme. J'ai été un enfant très joyeux. Au fond, ce qui pourrait rendre fou, la raison commune, c'est de dire que, oui, pendant toute la journée, on chante, on danse, évidemment, je fais des métaphores là, on chante, on danse, on s'amuse, on vit très très bien, je parle de l'enfant que je suis, et la nuit, ce sont les cauchemars. Toutes les nuits, ça revient, parce que un enfant est frappé par des choses simples. Ce qui m'avait marqué, les fours crématoires, on ne sait pas ce que c'est, les chambres à gaz. Donc, ce qui m'avait marqué, c'est qu'on sortait les gens de leur lit en pyjama, qui ne pouvaient pas s'habiller, ou à peu près, et qu'on les emmenait vers nulle part. Bon. Et donc, toutes les nuits, j'avais ces trains, qui se sont modifiés plus tard, puisque je prends souvent des trains maintenant, et je les adore. Ce sont des trains qui arrivent quelque part. Ces trains de l'enfance, qui étaient des trains du cauchemar. Mais donc, cette image de cendre, elle est double aussi. Ce sont des braises de vie dans une mémoire de mort, et comme si la mort faisait partie de la vie et la vie de la mort.
Avant d'entrer dans votre intimité familiale à pas feutrer, j'aimerais rester encore un instant sur cette ville, Anvers, qui est une ville très spécifique, avec une communauté juive très implantée. C'est une des premières villes qui a vu se reformer ces communautés au lendemain de la guerre. Est-ce que ça fabrique une judéité particulière pour vous?
Alors ça, c'est extraordinaire. Bon, Vous avez parlé de la difficulté que nous avons tous, toutes, à parler de l'enfance. Vous savez, l'enfance, c'est un piège, et c'est un piège séduisant. Pourquoi un piège? Parce que l'enfance et ce type de passé-là, c'est du passé composé, du passé recomposé. Autrement dit, et vous le savez, l'enfance est un merveilleux terrain de fiction et de littérature. Donc vous me demandez de dire quelques mots de cette enfance. Il faut savoir que ce que je vais vous dire, c'est moi qui parle aujourd'hui, et de cette enfance, qu'est-ce qui reste? Déjà, fiction pour fiction. La ville où je suis né, on vient de dire Anvers. Quand j'étais petit, j'ai pas beaucoup grandi depuis, j'ai 1m60, quand j'étais petit, ça se disait Anvers en Belgique. Et aujourd'hui, Anvers n'existe plus, c'est Antwerpen en flamand. Alors, plus concrètement, c'est vrai que c'était un univers où il y avait plusieurs langues, mais d'emblée, j'ai été éduqué en 3 langues. En français, ma mère qui devait parler, qui parlait avec un fort accent polonais, pardon, mais puisqu'on est à France Culture, des petits souvenirs. Un jour, je faisais une émission à France Culture et où je m'appliquais pour bien parler. Moi qui suis jamais allé en Pologne, moi qui n'ai jamais parlé un mot de polonais, j'ai entendu ma langue fourcher et prononcer un mot avec un accent polonais. Donc j'ai été éduqué par un Français avec un accent polonais, c'était ma mère. Avec mon père, qui a vécu jusqu'à 100 ans, j'ai toujours parlé yiddish, avec ma grand-mère maternelle aussi. Mais dans la rue, avec les gens que je rencontrais, je parlais flamand. Et je me souviens qu'à partir de l'âge où on peut avoir la conscience des choses, quand j'avais 7-8 ans, ma sœur, bien plus âgée que moi, et mon frère, me disaient « c'est quand même extraordinaire, tu étais tout petit, tu parlais à peine, d'ailleurs tu as à peu près parlé avant de marcher, me disait-on, mais tu te trompais jamais, tu savais avec qui tu devais parler en français, avec qui tu devais parler en yiddish, avec qui... » Mais bien sûr, puisque, vous le savez, la langue est liée aux coutumes, aux manières d'être. Sans doute, quand je voyais des gens très âgés qui avaient l'air familiers, je leur parlais yiddish. Quand ils étaient plus jeunes, je le parlais français. Et quand c'était des gens que je connaissais pas du tout, dans la rue, bon, dans la rue. Vous parliez d'un ghetto qui sait, c'est vrai, c'était un vrai ghetto, un ghetto heureux. Parce qu'un ghetto spontanément recomposé par des gens qui avaient survécu à la guerre, qui étaient revenus en Belgique ou qui n'y avaient jamais été, peu importe, et où il y avait une sorte d'entre-soi étrange, sans aucune police qui vous obligeait à être entre vous, mais où sans doute des populations, et là ce sont des populations juives, ce serait la même chose avec d'autres populations, qui ont été fragilisées, se réconfortent dans leurs rituels, dans leurs fêtes, dans leur mode de vie. Il faudrait préciser, parce que c'est une chose qui n'est jamais assez dite quand on a une culture chrétienne, que j'ai aujourd'hui aussi par mes lectures, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de judaïsme sans religion et sans Dieu. J'ai vécu dans un univers extrêmement traditionnel. On ne mélangeait pas le lait et la viande, mais Dieu, il n'y avait pas. On me menait à la synagogue, mais c'était pour être ensemble avec d'autres gens. C'était vraiment cette vision de la communauté, Jean-Pierre Vernant me disait à l'époque, mais c'était comme sur l'agora. Il l'a d'ailleurs écrit dans un de ses livres, après une conversation qu'il avait eue avec mon père, et il me disait, mais au fond, ce vieux juif, ce qu'il me raconte, ça me fait penser aux Grecs. Donc c'était un monde où il y avait plusieurs langues, et où, vous avez prononcé le mot d'altérité, où l'altérité était partout, était tout le temps, l'altérité était dedans, elle était dehors, et... Chose amusante, c'est qu'il y avait bien sûr des choses que je préférais à d'autres. Le plus simple pour moi, c'était quand même le français. Le yiddish était complètement simple aussi. Mais ce que j'aimais pas, c'était le flamand, parce que c'était plus difficile, parce que c'était avec des gens que je ne connaissais pas. Et surtout, ce que je n'aimais pas du tout, c'est qu'à l'école, on a voulu m'apprendre de l'hébreu. C'était pas une école religieuse, mais c'était une école juive, on apprenait de l'hébreu. Et vous savez comment c'est dans la vie. Quand je suis arrivé aux hautes études et que je faisais mes séminaires, je m'occupais de quoi? Je faisais mon séminaire sur des textes hébreux et des textes flamands. Parce que quand j'étais gosse, je pouvais pas savoir que le flamand a été la plus célèbre de toutes les langues du paradis au XVIe et au XVIIe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire.
Cette enfance, vous l'avez donc passée entre différentes langues. Il semble que la parole prenait une place très importante dans la famille. Qu'en était-il de l'écrit? Est-ce qu'on lisait? Est-ce qu'on écrivait dans votre famille?
Alors, vous savez qu'on dit toujours que, ou en tout cas, ils s'en vantent, les traditions juives s'en vantent, de dire qu'ils n'ont pas d'icônes. Les autres ont plusieurs dieux et plein d'icônes, mais les juifs n'ont qu'un seul dieu, invisible, sans nom et pas d'icônes. Mais on oublie quand même qu'il y a, il y a beaucoup d'icônes dans le judaïsme et que l'icône majeure, c'est l'écrit et l'écriture. La Torah, les rouleaux, même si on danse avec ces rouleaux à certaines fêtes, on les embrasse et ainsi de suite. Donc l'éducation que j'ai eue, en effet, était beaucoup une éducation, là encore très paradoxale, où on parlait sans cesse de l'étude, où on valorisait l'étude en disant qu'il faut étudier, qu'il faut savoir, mais en même temps on ne lisait pas. Et donc, c'est quand même plus simple de parler que d'apprendre à lire et à écrire. Eh bien, on a fait de moi un enfant bavard qui était sans doute très dissipé et qui ne voulait pas s'appliquer à apprendre. Néanmoins, quand on voulait me flatter, je me souviens quand j'avais 4, 5, 6 ans, on m'appelait comment en yiddish, mais ça peut se comprendre en allemand, alte Kopf, vieille tête. C'est-à-dire que j'étais un enfant qui avait une vieille tête, j'étais un enfant qui pensait avec une tête d'adulte. C'est-à-dire qu'on me créditait d'un savoir que je n'avais absolument pas. Voilà un souvenir précis.
Et vous dites, vous l'avez écrit, on ne sait pas vraiment si c'est de l'ordre de la fiction ou du réel, que l'enfant que vous étiez était un enfant à la volonté analphabète. Vous refusiez de lire. Est-ce que c'est une vérité biographique ?
Oui, c'est une vérité. Mais on va être plus simple, vérité est un grand mot. J'ai lu extrêmement peu, presque rien, jusqu'à l'âge, disons, de 14 ans. Bizarrement, je commence, alors vous savez ce qui intéresse une jeune fille ou un jeune garçon de 14 ans, la sexualité, je tombe sur un livre qui s'appelle « Trois essais sur la sexualité », un monsieur que je connaissais pas, qui s'appelait Freud, donc j'ai lu ça quelques années après, mais c'était bien plus tard, 17-18 ans, il y avait les nourritures terrestres de Gide, directement le banquet de Platon, parce que là encore c'était de l'amour. J'ai lu toujours, peut-être même que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu peu. Je lis, c'est que les gens, ça les amuse quand je dis ça, mais c'est quand même vrai. Je lis extrêmement lentement, pas par incapacité, c'est pas de l'illettrie, mais par volonté d'entrer dans le texte, ou plutôt de permettre à un texte de me pénétrer, de m'aspirer. J'aime être aspiré par les textes, comme par la musique, comme par tout ce qu'on peut voir et entendre. Donc, oui, c'est vrai. Alors, volonté analphabète, c'est en effet ce que j'ai écrit dans un enfant, oui, dans la bibliothèque, là, le fantôme, vous voyez quel lapsus. J'ai un enfant dans la bibliothèque plutôt qu'un fantôme dans la bibliothèque, dit du livre. Quand je parle de volonté analphabète, c'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'au moment d'écrire ce livre, j'ai compris à quel point l'enfant avait saisi une chose terrifiante. C'est que le massacre et le génocide des Juifs, des Tziganes, pendant la guerre, n'était pas un acte de sauvagerie. C'est un acte promulgué par des lois. En France, vous savez qu'il y a eu les lois de Vichy. Même d'ailleurs avant le nazisme, les pogroms étaient des choses décidées par écrit. C'est-à-dire que l'écrit, l'alphabet, a pu servir à un ordonnancement, à une organisation de massacres sans fin, atteignant un génocide. Et c'est ainsi que l'adulte, en moi, aujourd'hui, interprète le refus de l'alphabet. C'est pas ça, apprendre à lire et à écrire, c'est difficile. On va pas le faire maintenant, mais je pense qu'il y a une grande difficulté à lire, à apprendre à lire et aussi à écrire. Difficulté que je n'ai jamais cessé d'avoir d'ailleurs.
Par quel livre, par quel auteur rentrez-vous en littérature ? Comment vous brisez cette porte ou ce mur entre vous et la littérature, entre vous et le savoir ?
Pour autant que ma mémoire, là encore, puisqu'on recompose tout, et que vous me mettez dans un jeu de fiction, avec vous, en ce moment même, ce soir, ben oui, c'est banal, sauf que je me suis trompé d'époque, c'est un livre du 19e siècle. Nathanaël, jette ton livre, et ainsi. Les nourritures terrestres, voilà, un grand livre, me dit-on. Je dis, qu'est-ce que je dois lire si je veux lire? Ai-je dit à une amie à l'époque, j'avais 17 ou 18 ans, j'étais cliveur de diamants. Qu'est-ce qu'il voulait? Lis les nourritures terrestres de Gide. Et hop, je note Gide, ça s'écrit comment? Nourriture terrestre, je savais pas combien de R, etc. Bon. Et j'avance. J'ouvre ce livre, Ah, j'étais très 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 content. Je suis rentré en culture, en littérature, simplement en fragments de connaissances, sans doute par les nourritures terrestres, ce qui était très décalé quand même dans les années 60, c'est un livre de la fin du siècle, du 19e siècle, mais aussi beaucoup par Nietzsche. Voilà un autre iconoclaste. Voilà quelqu'un qui me disait, tu as le droit d'oublier, tu as le droit de ne pas savoir. Le savoir est une affaire traficotée. C'était un texte, comme vous savez, Nietzsche, d'ailleurs, il n'a jamais réussi à être assimilé par le monde universitaire ni académique, de son temps, n'est-ce pas? C'était un texte plein de savoir, qui brisait le savoir pour avancer dans le savoir, chez Nietzsche. Et oui, et les philosophes, mais sans doute celui que j'ai le plus aimé, comme un grand nombre d'entre nous, tout en ne le comprenant pas nécessairement, c'est Spinoza. Il faut insister sur un point, c'est que on peut lire et avancer dans la vie, et avancer dans les lectures sans comprendre, j'insiste bien sans comprendre. Quand j'ai relu Nietzsche plus tard, ou Spinoza, pas quand j'avais 18 ou 19 ans, mais plus tard, j'ai bien compris que j'avais rien pigé du tout. Ça change rien au fait que ce que je n'avais pas pigé dans ces textes m'avait permis d'avancer dans la vie. C'est un peu comme si à l'âge où les jeunes vont à l'école, j'ai quitté l'école très tôt, je voulais pas aller à l'école, j'ai fait du théâtre, j'y reviendrai dans un instant, c'est un peu comme si à l'âge où les enfants sont scolarisés et soumis à des études difficiles, je m'étais dit qu'il me fallait d'abord apprendre à vivre. Et c'est vrai que ce n'est que vers 20 ans, lorsque j'étais arrivé à une forme d'entente avec moi, un certain nombre de jeux entre la réalité et la fiction, sans doute, qui serait trop long à expliquer, que j'ai pu commencer à faire des études, et j'ai fait un bachot à 22 ans. Donc, d'abord apprendre à vivre, c'était l'envers. Je n'arrivais pas à m'appliquer à l'école. Je dis, mais ils sont fous. Alors qu'il y a tant de choses essentielles, pourquoi ils veulent que je me concentre sur ceci et cela? Le ceci et le cela, c'était les codes. C'était les règles de la vie en société. Mais moi, ces règles de la vie en société, elles ne m'allaient pas. Je sortais d'un monde où les règles de la vie en société avaient organisé des massacres de masse par des gens très sérieux. Le génocide, tel qu'il a été décidé par les nazis, était annoncé dans les locaux des universités. Je savais que le savoir, je savais qu'il y avait des lois. Donc voilà la volonté analphabète, si on peut dire. Si je reprends un autre instant très concret, qui est peut-être une chose qu'il faudrait dire et redire, c'est qu'en effet, un livre, c'est gros. Crime et châtiment, la Bible, enfin ce que vous voulez, comment on peut lire tout ça? Et je me suis mis, parce que j'aimais ça, et je ne suis pas le seul, à rêver de faire du théâtre. Bien sûr, du cinéma, mais du théâtre, j'en ai fait.
On retrouve l'enfant joyeux, l'enfant qui s'expose au regard des autres.
Et j'ai découvert quoi? J'ai découvert une chose magique. Une œuvre. Vous voyez ce que c'est une œuvre? Une œuvre écrite. C'est quelque chose qui a un début, un milieu, une fin, qui est imprimé et qu'on prend et qu'on trouve dans un livre. Une œuvre qu'on appelle une pièce de théâtre. Molière, Euripide, Sophocle, Shakespeare, peu importe. J'ai découvert que je pouvais lire ça en une heure ou deux, qu'il y avait très peu de mots par page. Quelquefois, bonjour, où allez-vous, comment? La page était terminée. Au fond, quand je voyais une page noircie avec plein de mots, j'y arrivais pas. Et là, c'était des pages avec quelques mots. Il y a la poésie aussi, mais entrer dans un poème est plus difficile. Demande, me semble-t-il, plus de préparation qu'entrer dans cette chose qui est de l'écriture à l'état pur, mais de l'écriture tragique ou comique, qui est la transcription par écrit d'une parole vive. C'est du théâtre.
Les textes de théâtre, la poésie, on y retrouve l'idée que ce sont des textes, des mots qui se disent, et donc on retrouve une forme de musicalité ou d'oralité. Est-ce que c'est quelque chose qui imprègne aujourd'hui votre écriture? Est-ce que vous songez à ces premiers textes que vous avez lus quand aujourd'hui vous prenez votre stylo et que vous écrivez?
Avant de vous répondre à ça, je vous dirais qu'à la même période où je lisais peu et où je commençais à lire, cette période que je viens de décrire, disons globalement entre 17, 18 et 21 ans, mon activité principale, quand je n'étais pas artisan cliveur de diamants ou quand je ne faisais pas du théâtre, c'était d'écouter de la musique.
Quelle musique ?
La musique. Alors c'était une de mes icônes absolues, on le connaît encore, c'était Mouloudji. Mais j'adorais Gilbert Bécaud, Brassens, enfin, toute la chanson, Anne Sylvestre, Nicole Louvier, plus tard, Jacques Douai, la chanson française. Mais à 15 ans, à 16 ans, et je suis tombé littéralement dans Jean-Sébastien Bach, comme tant d'autres, et avant ça dans Buxtehude, je voulais savoir d'où venait ce que j'entendais. Donc je me suis plongé dans les premières musiques du XIIe, du XIIIe siècle, les Pérotins, toute la musique médiévale. Au fond, l'archéologue que je ne savais pas que j'allais devenir opérait déjà comme ça en musique. Aujourd'hui, je me dis qu'au fond, j'ai quand même tout appris. Alors que je ne suis ni musicologue, ni je n'ai jamais pratiqué, ou très peu, le piano. J'ai d'écouter de la musique, d'essayer d'entrer dans la rigueur des constructions mélodiques et musicales, ce que je n'ai cessé de faire, mais je parle de Bach, c'était aussi bien avec les Nocturnes de Forêt, peu importe, d'essayer d'entendre et de comprendre ça, au fond plus tard, quand j'ai fait des études universitaires, c'est la rigueur sonore qui m'a orienté vers le savoir, ou en tout cas vers cette forme de savoir qui me faisait plaisir.
Vous parlez de rigueur, ça m'évoque une activité que vous avez pratiquée et que vous avez mentionnée à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien, c'est votre activité de cliveur de diamants. On revient à Anvers, à cette ville très spécifique avec cette activité des diamantaires. Comment vous rentrez en apprentissage pour ce métier, cliveur de diamants, et qu'est-ce que ça vous a appris ? Aussi de la rigueur ?
Écoutez, donc cliver un diamant, c'est le fendre, c'est l'image la plus simple quand on ne sait pas ce que c'est vous voyez ce que c'est du bois, quand vous avez un bout de bois. Un bois, on peut le scier, on peut le couper, un diamant aussi, on peut le scier, mais pour le fendre, il faut suivre le fil du bois. Ben là, c'est le fil du cristal, il faut absolument, voilà. Alors, oui, ça a été un travail, j'étais artisan, apprenti, simplement. Mais je viens pas d'un milieu de diamantaire. Mes parents étaient des petits commerçants dans les années 30. Je suis né, ma mère était très âgée déjà quand je suis né. J'étais un troisième enfant en 46 après la guerre. Et quand je disais à mon père que je voulais absolument rien faire et surtout pas aller à l'école et que j'allais faire du théâtre, excusez le théâtre. Bon, d'accord. Il faut que tu aies un métier. Je dis oui, mais je veux pas avoir de métier. Oui, mais si un jour tu veux un métier, il faut que tu aies une formation, quelle qu'elle soit. Et donc, comme après la guerre, ça vaut la peine d'être signalé, on parle toujours des usuriers au Moyen-Âge, mais on sait peu qu'en plein XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, quand un juif polonais qui avait vécu déjà pendant 15 ans en Belgique, avant la guerre, a survécu en fuyant en Suisse, et quand il revenait en 45, et qu'avec ses papiers polonais, mais de résident en Belgique pendant 15 ans, marié avec des enfants, etc., disait qu'il voulait reprendre son activité, c'est-à-dire, au fond, vendre des mouchoirs, des chaussettes, et ce qu'on appelait la bonneterie à l'époque, on ne lui donnait pas un permis de travail. Il dit, mais je fais quoi, moi ? Vous allez devenir diamantaire, a-t-on dit à mon père. Il dit, mais diamant quoi ? Diamantaire. Mais je ne sais pas ce que... C'est un métier, monsieur, a-t-il répondu. Eh bien, tant pis pour vous, alors non, alors vous ne pouvez pas rester en Belgique, où il est arrivé en 1925. Et donc, il est devenu diamantaire. Il a appris, donc diamantaire, il faut savoir, parce que quand on dit ça comme ça, il y a les gens très riches et il y a les autres, comme partout ailleurs. Lui, il a été du côté des autres. Néanmoins, c'est comme ça que c'est dans ce milieu-là que j'ai eu une formation qui, en effet, me permettait de travailler de 7h du matin à 16h. C'était le cliveur de diamants. Ensuite, je faisais du théâtre et puis je passais la nuit à écouter de la musique.
Et comment retrouve-t-on le chemin de l'école, de l'université, du savoir plus traditionnel ? Parce que là, vous nous décrivez une adolescence d'autodidacte.
Il faudrait surtout dire comment, quand on a retrouvé le chemin, a-t-on réussi, j'espère, aujourd'hui, à ne pas perdre toute la richesse de celui ou de celle, si j'étais une fille, qui n'avait pas de chemin droit, parce que c'est là qu'on butine et qu'on découvre énormément de choses. Bah, c'est assez simple, j'avais un ami bien plus âgé que moi, qui m'a dit, tu sais, c'est très bien de lire Spinoza, Nietzsche, Platon, tout ça, mais tu vas faire quoi après? Tu vas te retrouver à 40 ans, tu es déjà à 20 ans ou 21 ans très savant, mais sache que si un jour tu te présentes dans une faculté universitaire et que tu souhaites soutenir une thèse, ils vont te refuser. Ils vont te refuser parce que tu n'auras pas fait l'écolage stupide, mais nécessaire, qu'il faut faire pour apprendre. Et donc, c'est vrai, quand je dis stupide, c'était mes sentiments de l'époque, je ne les ai plus comme ça aujourd'hui, c'est vrai que j'ai, si je devais utiliser une formule radicale, je dirais que j'ai appris en même temps le français, le grec et le latin. C'est-à-dire que mon français, bien sûr, j'ai toujours été francophone, je parlais français, mais quand même, sûrement avec beaucoup d'erreurs, surtout quand j'écrivais. Pour vous donner un exemple amusant, vous savez que chez Spinoza, il parle de Dieu, il parle des attributs de Dieu, tout ça est très compliqué, je suis pas sûr d'avoir compris, mais ça m'a aidé à une seule chose, c'est que quand on comprend pas pourquoi en latin, l'attribut, comme un sujet, est au nominatif, alors je passais par Spinoza pour accepter la grammaire latine. Donc dans ma tête, c'était quand même assez subtil et assez ludique, et donc j'ai fait, en effet, un bachot, j'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé pendant 2 ans. En tout cas, c'était en Belgique. Ça s'appelait un jury central supérieur d'État. Je sais pas si ça existe toujours. Où en 3 jours, vous avez à présenter la totalité des matières de 6 ans d'études entre 12 ans et 18 ans. Je me souviens encore qu'en géométrie ou en mathématiques, on me posait des questions qu'on pose à des gosses de 12 ans, de 14 ans et de 18 ans. Ou qu'en latin, il fallait préparer un discours. J'avais préparé le Pro Milone de Cicéron. Ben, la première question, ce mot-là, c'est un nominatif ou un accusatif. Pourquoi? Après, qui est Cicéron? Après tout le contexte politique. C'est-à-dire que cette formation intense où en 2 ans, j'apprenais ce qui était pour d'autres découpé en morceaux. Mais moi, c'était rassemblé, parce que pour Cicéron, je devais aussi bien, dans le même discours, expliquer pourquoi tel mot avait cette forme que tout son contexte historique, politique, social. Ben, il faut croire que ça m'a convenu et que je ne me suis pas trop arrêté après.
Merci, Maurice Hollander. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Claire Maillot avec Maurice Hollander. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et se podcastent sur franceculture.fr.